Bonsoir et bienvenue dans cette émission. 13 gardes des parcs et 4 civils ont été tués vendredi dernier dans une embuscade tendue par des FDLR contre des convois des civils au parc national de Virunga, selon le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. D'après la même source, les gardes tués sont morts en essayant de venir en aide aux civils visés. Un véhicule a été incendié par ces assaillants dans le parc. Comment expliquer cette attaque? Que faire pour mieux protéger le parc national de Virunga? C'est l'objet du débat de ce soir. Et dans cette émission, nous recevons Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Il est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bonsoir, Maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Oui, bonsoir, Guy Maté.
Maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif de l'ONG Alternative Congolaise pour l'environnement et les droits humains. Il est aussi expert en matière des droits fonciers. Bonsoir, Maître Olivier Ndole.
Bonsoir, monsieur.
Et lui, c'est le professeur Cosma Olingula, je ne sais pas s'il est encore là. Il est directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
13 gardes des parcs et 4 civils ont été tués vendredi dernier dans une embuscade tendue par des FDLR contre des convois de civils au parc national de Virunga, selon le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Plus de détails avec vous, Donna Madimba.
C'est Evariste Kabadi à Kananga, au Kasai Central.
Voilà, donc on attend ces reportages de Donna Madimba qui nous donne beaucoup plus de détails sur l'attaque qui est intervenue dans les parcs de Virunga vendredi dernier.
13 gardes de parc et 4 civils ont été tués vendredi 24 avril dans une attaque attribuée au FDLR dans les environs de Rumangabo au parc national de Virunga. Selon l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, les faits se sont déroulés à 11h lorsqu'un convoi des civils est tombé dans une embuscade montée par ces rebelles qui opèrent dans une partie de ce parc situé en territoire de Rutshuru à 50 km de Goma. Le directeur général de l'ICCN, Cosma Wilungula, affirme que les gardes du parc sont décédés en portant assistance aux véhicules civils qui avaient été pris sous le feu des assaillants. Nous avons perdu 13 éco-gardes ce matin dans les attaques contre les FDLR. Ce sont les convois de nos compatriotes qui traversaient sur la route Goma-Rutshuru. Nos gardes sont venus quand ils ont entendu les coups de feu sur le convoi civil qui était devant. Or, avant que les gardes n'approchent, les FDLR, qui étaient en nombre d'une soixantaine, avaient déjà tendu une embuscade et nos hommes sont entrés dans une embuscade en allant sauver les civils, a témoigné le directeur général de l'ICCN. D'après Cosmo Wilungula, au cours de la même attaque, 4 civils ont également trouvé la mort et 4 autres gardes de parc ont été grièvement blessés. Ils sont d'ailleurs suivis dans un hôpital de la place. Retenez pour terminer qu'un véhicule a été incendié par ces assaillants dans le parc.
Voilà, la réalisation me signale que on n'a pas encore le professeur Cosma Wilungula. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle macabre, l'assassinat des 17 personnes dans les parcs de Virunga vendredi dernier?
Je voudrais d'abord saluer d'abord mon co-débatteur, monsieur Ndole, et j'estime vraiment que les responsables de l'ICCN sera là pour pouvoir apporter un certain nombre d'éléments par rapport au débat. Mais je dois d'abord dire que j'ai été profondément consterné d'apprendre la mort de nos éco-gardes, des civils également qui ont été tués. Je voudrais en profiter pour avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes, adresser toutes mes compassions et celles des membres du bureau de l'Assemblée provinciale à toutes les familles des victimes, les éco-gardes et les civils qui ont été touchés par cette attaque. Mais il faudrait noter de prime abord que cette attaque intervient dans un contexte marqué par une insécurité qui ne dit plus son nom dans les territoires de Rutshuru. Lorsque vous essayez de faire une analyse des 3 derniers mois,
L'insécurité dans le territoire de Rutshuru a atteint son paroxysme. Elle s'est manifestée à travers plusieurs formes, notamment des kidnappings répétitifs, des viols, des meurtres, des attaques. Et il n'y a pas longtemps, vous avez appris même, il y a un convoi de FRDC qui avait fait l'objet d'une attaque et l'argent avait été ravi et emporté dans la forêt. Donc c'est un territoire qui vit une insécurité que nous ne savons plus qualifier. Et c'est là qu'il faudrait oublier les limites que le territoire de Rutshuru partage avec les Rwandais. Je ne voudrais pas dire que d'autres attaques viennent du Rwanda, mais c'est également un élément dont on ne peut pas ignorer. Mais c'est vraiment ça le contexte dans lequel est intervenue cette attaque-là que nous continuons à condamner. Et nous pensons que ça va une fois de plus interpeller les gouvernements centraux, la police, l'armée et tous les services spécialisés à pouvoir s'interroger sur les véritables causes de la persistance de l'insécurité dans le territoire de Rutshuru. Malheureusement, cette insécurité se répand également dans le territoire voisin de Nyiragongo également. On assiste à une sorte d'une insécurité qui ne dit plus son nom également dans le territoire de Nyiragongo. C'est également une partie du territoire de Lubero qui est également affectée. Donc, en fait, le territoire de Rutshuru est devenu une sorte d'épicentre de l'insécurité et je crois que ça doit interpeller encore une fois l'autorité au niveau de Kinshasa.
Honorable Jean-Paul Mouloubou, vous évoquez oui. Ce contexte particulier de l'insécurité. Vous dites que c'est une insécurité qui a atteint son paroxysme dans le territoire de Rutshuru. Et certaines sources parlent des hommes armés non identifiés. Mais le professeur Wilungula a plutôt parlé des FDLR. Quelle est l'information que vous avez au niveau de l'Assemblée provinciale?
Bon, il faut dire que les informations continuent à être recoupées. Ce n'est pas prudent de ma part en tant qu'homme d'État de confirmer d'emblée comme ça qu'il s'agit des FDLR. Les informations qui nous ont été fournies par également les sources proches de l'ICFM sont telles qu'il s'agit des FDLR. Nous voulons bien, mais nous continuons à chercher à recouper les différentes sources pour avoir la vraie information. Mais ce qui est vrai, c'est que cette attaque a été opérée par des hommes porteurs d'armes et qui étaient sérieusement armés et qui ont tiré comme des professionnels. Parce que vous allez constater que les éco-gardes, bien qu'ils étaient armés, je n'ai pas vu la possibilité de la riposte de l'un des éco-gardes parce que tous ils ont été tués. Mais au contraire, du côté des assaillants, nous n'avons même pas constaté qu'un seul assaillant a été touché. Pourtant, les éco-gardes étaient armés comme ils ont toujours été armés. Ça veut dire que cette attaque a été organisée par des hommes professionnels dans les tirs. Et ça, évidemment, ça peut faire penser aux FDLR. Mais pour moi, il serait trop hâtif de confirmer qu'il s'agit des FDLR. Je crois que les informations que nous sommes en train de chercher à gauche et à droite vont nous permettre dans les jours qui viennent ici de confirmer qui sont les véritables auteurs de cette attaque.
Le parc national de Virunga, en tant que réserve naturelle importante, n'est-ce pas, devrait faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement congolais, d'abord parce que c'est un patrimoine nécessaire à la préservation de l'écosystème, mais aussi c'est une source importante de recettes liées, n'est-ce pas, au tourisme. Honorable Jean-Paul Mouloubou, au vu de ce qui se passe dans ces parcs, vous avez le sentiment que le gouvernement congolais accorde assez d'importance à ces patrimoines nationaux?
Non, au contraire, je pense que par rapport à la problématique du parc, il faut lier deux impératifs. Il faut lier d'une part l'impératif lié à la nécessité de la protection de l'écosystème et il faut également lier l'impératif lié au problème posé par l'explosion démographique. Vous savez, les problèmes que pose le parc aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été posés lorsqu'il y a eu des limitations ou bien lorsque le parc a été affecté comme patrimoine commun de l'humanité. À l'époque, lorsque le parc a été accordé, nous n'avons pas la population que nous avons aujourd'hui à Lubero, à Rutshuru, à Beni. Non, ce n'était pas la même population. Aujourd'hui, nous avons une explosion démographique, nous avons une pression démographique. La population est à la recherche des terres pour cultiver. alors que le parc est là. Donc il y a un sérieux problème et je pense qu'à un certain niveau, le gouvernement n'accordait pas assez d'importance à cette problématique. Voilà pourquoi je pense que c'est une occasion d'interpeller le gouvernement. Parce que lorsque moi j'ai fait une analyse globale de la problématique du parc de Virunga et de la population, je relève 6 problèmes. Le premier problème d'abord, il faut se poser la question de la redistribution des ressources de parc par rapport à la population. Est-ce que les populations riveraines bénéficient des revenus du parc? Je pense que par rapport à cette question, la réponse, elle est vite trouvée, c'est non. Mais il se pose également un problème. Le problème, c'est qu'il y a, à Rutshuru, nous avons des collectivités chefferies. Nous avons la collectivité chefferie de Bouicha, nous avons la collectivité chefferie de Bouito. Mais à l'heure actuelle, vous allez constater qu'il y a la collectivité chefferie de Bouito qui est déjà isolée, qui est écartée de l'espace de prise de décision par le fait que l'hôtel de la Ruindi, qui se trouvait également dans le Bouicha, a été délocalisé vers l'Ulimbi. Et là, ça semble écarter l'une des collectivités dans la gestion du parc. Et ça peut créer un mécontentement. Ça veut dire que le parc ne profite qu'à l'une des collectivités dans le territoire de Rutshuru. Le deuxième problème, et qui est le problème le plus important, et qui trouve même sa source dans la loi, c'est la nécessité impérieuse de la réactualisation des limites du parc. Les limites qui avaient été accordées à l'époque, c'était des limites qui n'ont pas tenu compte de l'évolution démographique. L'explosion démographique aujourd'hui, la pression démographique que nous avons à Lubero, à Rutshuru, à Beni, est telle que le gouvernement doit réactualiser les limites du parc en tenant compte des besoins prioritaires de la population qui est à la recherche des espaces pour la culture. Parce que pour la population de Rutshuru, la population de Beni et de Lubero, il est hors de question qu'on puisse privilégier, par exemple, des espaces pour protéger les animaux, alors que les humains manquent des espaces pour aller cultiver et assurer leur survie. Donc il y a un problème de survie également pour cette population de Rutshuru, de Lubero et de Beni par rapport à ces espaces qui doivent être cultivés. Voilà pourquoi, lorsqu'il faut se référer à la loi sur la protection de la nature, les articles 31, 32, 33, il y a une nécessité impérieuse de la réactualisation des limites. Et cette réactualisation doit être une réactualisation participative, pas une réactualisation caporaliste, policière, où le parc, plutôt l'ICCN, décide que je mets mes limites ici. Il faudrait amener la population à cette démarche, soit une
honorable
démarche
Lumbu.
Communautaire, une démarche participative, oui.
Voilà, vous évoquez là 6 problèmes, notamment la redistribution des ressources du parc qui ne profitent pas aux populations environnantes. Vous parlez des chefferies qui sont écartées, n'est-ce pas, du processus de prise de décision par rapport à ces parcs. Et vous parlez aussi de la nécessité impérieuse de la réactualisation des limites, n'est-ce pas, du parc des Virunga. Mais est-ce que cette question a déjà fait l'objet des préoccupations au sein de l'Assemblée provinciale? Si oui, quel est l'apport, n'est-ce pas, de vous, députés provinciaux, dans la résolution de tous ces problèmes que vous avez évoqués ici?
Bon, l'Assemblée provinciale, vous savez, Guy, nous sommes régis par la Constitution qui délimite les compétences de chaque niveau de pouvoir. Au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons des pouvoirs certes limités par rapport à la question. Vous voyez, la question de la conservation de la nature est une question qui relève essentiellement du pouvoir central. Donc la question doit être traitée beaucoup plus au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais n'en déplaise, au niveau de l'Assemblée provinciale, par exemple, je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, l'ICCN a voulu signer une convention avec la COPEVI, laquelle convention devrait écarter un certain nombre de pêcheries par rapport aux bénéfices du lac Édouard. J'ai initié une motion au niveau de l'Assemblée provinciale pour demander à la plénière de pouvoir voter une recommandation annulant cette convention entre l'ICCN et la COPEVI, parce que si cette convention était appliquée, il y a beaucoup de pêcheries, Lunyasenge, Talia, et Kiavignong et Vichumbi, qui allaient être écartées du bénéfice du lac Édouard. Pourtant, ces populations-là ne vivent que soit de l'agriculture, soit de la pêche. Ce sont là les problèmes. La question a pu trouver solution plutôt au niveau national, parce que la recommandation a été adressée au gouverneur de province, qui à son tour l'a adressé au niveau du gouvernement central. Donc la question doit être traitée beaucoup plus au niveau du gouvernement central.
Merci.
Qu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, nous jouons notre rôle, c'est d'alerter alerter lorsque ça ne va pas.
Merci,
pour que
honorable.
Le décideur par rapport à la question puisse prendre une décision.
Merci, Maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif de l'ONG Alternative Congolaise pour l'environnement et les droits humains. Vous êtes aussi expert en matière des droits fonciers. Comment vous analysez cette attaque qui a fait 17 victimes dans les parcs de Virunga vendredi dernier?
Merci. Au même moment, je salue à juste titre l'honorable confrère Lumbulumbu. Je salue aussi sa réaction qui a condamné à travers les réseaux sociaux cette attaque. Donc, d'ailleurs, lorsque nous avons appris cela, donc c'est un sentiment très douloureux, un sentiment de consternation que nous condamnons, un sentiment constituant une insulte par rapport aux efforts de la conservation, par rapport aux sacrifices que les défenseurs de l'environnement sont en train de donner à travers le monde, parce que comme vous le savez, le parc national de Virunga n'est pas seulement un patrimoine pour les Congolais, mais c'est un patrimoine mondial. Il n'y a pas de frontières par rapport aux efforts climatiques. Donc, nous avons tous l'obligation de fournir un effort pour préserver les écosystèmes du parc national de Virunga. Et à cela, donc, j'aimerais qu'il y ait plus de volonté politique pour soutenir tous ces efforts-là, pourvu que nous puissions avoir, si vous voulez, cette stabilité climatique et même concilier, si vous voulez, les besoins tels que politiquement des fois exprimé par rapport aux besoins et à l'agenda politique du chef de l'État qui, lui, voudrait même voir les aires protégées être encore augmentées et d'autres discours voudraient qu'il y ait encore révision des efforts.
Voilà, beaucoup de groupes armés, n'est-ce pas, opèrent à partir de ces parcs de Virunga depuis un certain moment, et cela est connu de tous. Par rapport à cette menace, n'est-ce pas, que représentent ces groupes armés, est-ce qu'il y a des efforts qui ont été fournis par le gouvernement central pour former et ainsi que équiper les gardes des parcs afin qu'ils soient à mesure, n'est-ce pas, de faire face à toutes ces menaces?
Je pense que la question des groupes armés, comme vous l'avez soulevé et comme Maître Jean-Paul Lumbulumbu l'a dit, donc c'est un problème réel par rapport non seulement à la stabilité au niveau non seulement du parc national de Virunga, mais par rapport à tous les paysages Virunga. Donc vous allez constater qu'au niveau du parc national de Virunga et aux alentours, il y a des groupes armés, des hommes et des femmes constitués en groupes armés qui ont érigé la violence et qui ont érigé le pillage comme un programme politique. Donc ce sont des groupes armés qui n'ont aucun agenda politique, des groupes armés qui n'ont aucune lutte politique par rapport à une quelconque prise de pouvoir, mais seulement ils ont comme programme piller les ressources naturelles du parc national de Virunga, exploiter les ressources halieutiques du parc national de Virunga, couper des bois pour fabriquer des belles, pour se fabriquer de l'argent. Et ils ont constitué cela comme un programme politique. Bien évidemment, il y a eu, au niveau, par exemple, du parc national de Virunga, il y a eu des efforts par rapport au renforcement en capacité, en termes, si vous voulez, de formation des éco-gardes. Mais comme vous le savez, par rapport à la gravité et par rapport même à la technicité de certains groupes armés qui sont étrangers, qui sont dans le parc national de Virunga, qui ont constitué le parc national de Virunga comme leur source de revenus principale. Si vous voyez par exemple l'exploitation, le phénomène Makala, il n'est pas à cacher que ce sont les groupes armés qui bénéficient de manière exponentielle des moyens ici de l'exploitation de Makala. Donc ces efforts-là, bien qu'au niveau des gardes des parcs, il y ait certaines formations, mais je pense que ce n'est pas suffisant par rapport au contexte du conflit et au contexte et à la dynamique des groupes armés dans la province du Nord Kivu.
Donc, Maître Olivier,
les combats sont limités. Allô?
Maître Olivier, oui, vous êtes expert en matière des droits fonciers. Pourquoi, à votre avis, on n'arrive toujours pas à résoudre la tension entre l'ICCN et les populations environnantes qui considèrent la partie qu'elles exploitent comme étant leur vivier? Vous l'avez souligné ici. Pourquoi on n'arrive toujours pas à solutionner ces problèmes?
Je pense que ce problème-là a plusieurs dimensions. Il y a d'abord une dimension politique que je voulais donc soulever ici. Et aussi, il y a une dimension géostratégique, comme l'a bien souligné Maître Jean-Paul Loubouloubou. Donc, il y a d'abord certains politiciens, certains élites qui prennent, si vous voulez, le parc national des Virunga comme d'abord la dimension foncière comme... comme un enjeu politique pouvant leur servir de mobilisation de leur électorat. Et donc, tout en sachant que les discours qu'ils sont en train de mener ne collent pas jusque-là avec la légalité, ils veulent en faire comme ils veulent se porter comme, si vous voulez, protecteurs, comme défenseurs des droits ou des intérêts fonciers des communautés locales. Donc, ils veulent montrer à la communauté locale qu'une fois ils sont élus, ils peuvent constituer, si vous voulez, un bouclier pour leur donner des terres.
Voilà, et vous évoquez...
Allô?
Oui, vous avez évoqué la dimension politique et géostratégique, n'est-ce pas, de ces problèmes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette tension entre les populations environnantes et l'ICCN, ainsi que cette attaque de vendredi dernier? Est-ce qu'on peut établir un lien?
Je ne suis pas expert en matière de sécurité ni de l'armée, mais les informations, et si je peux me donner, si vous voulez, la latitude de me faire de faire mieux les déclarations du vice-président de l'Assemblée provinciale, les déclarations faisant état, si vous voulez, d'une attaque beaucoup plus systématique, surmilitarisée, je ne vois pas vraiment, je doute qu'il y ait, par exemple, des communautés riveraines qui puissent avoir une puissance de fait aussi, si vous voulez, aussi sophistiquée comme celle-là pour attaquer, si vous voulez, les gardes de parc.
Merci.
Donc, je pense, c'est vrai, il y a des agitations, il y a, si vous voulez, des tensions par rapport au contrôle des ressources foncières, parce que, comme vous le savez, il y a une problématique, et c'est pourquoi même il y a la réforme foncière, il y a une problématique par rapport à l'accès à la terre, il y a une problématique par rapport, si vous voulez, à la bonne gouvernance et une gestion responsable des ressources foncières qui existent.
Merci, Maître Olivier Ndolé. On va évoquer cela dans la deuxième partie, hein, lorsqu'il faudra, n'est-ce pas, parler des solutions. On attendait le professeur Cosma Olungula, qui est directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature dans cette émission, mais il est occupé, ce qui fait qu'il vient de déléguer son collaborateur, M. Jeff Mapilanga. Il est chef du département technique et scientifique de l'ICCN. Jeff Mapilanga, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, nous parlons de cette attaque qui est intervenue le vendredi dernier dans le parc de Virunga et qui a fait 17 victimes, parmi lesquelles 13 gardes des parcs et 4 civils. Et ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'il y a des attaques dans ces parcs, mais la particularité de cette dernière, c'est le nombre de victimes parmi les gardes des parcs. Et comment vous expliquez cette attaque, Monsieur Jeff Mapilanga?
Merci de nous avoir invité à cette émission. Et comme je disais, le DG de l'ICCN, il est empêché. C'est comme ça que je vous réponds en tant que membre du staff dirigeant de l'ICCN. Je me dis, c'est une consternation. Nous remercions pratiquement la compassion des différentes parties qui continuent à exprimer, à couler les larmes devant cet incident. Mais je crois que l'intervenant de tout à l'heure, il a bien circonscrit le contexte dans lequel le parc national de Virunga, il est en train d'être géré, il fonctionne, c'est pratiquement dans un contexte trouble, des conflits, des persistances des bandes armées, plus d'une dizaine, qui opèrent dans les périphéries immédiates et à l'intérieur du parc. Mais non seulement pas aussi, également un enjeu majeur, c'est celui du trafic des ressources naturelles, notamment les makalas, les coquilles d'escargots, la pêche illicite, qui a fait in globo, ça génère plus de 30 millions. C'est un enjeu de taille pour financer tous ces malfrats qui opèrent au vu et aussi de tout le monde. Comment voilà. expliquer ça? Ça se situe justement dans cette effervescence des inciviques qui ont élu pratiquement comme mode de vie sociétal de ne pas adhérer au processus de pacification de la République, mais plutôt de rester dans l'irrégularité, dans l'incivisme, parce qu'ils sont en train de tirer profit de cela, et notamment, ils n'ont pas de vision politique.
Jeff
mais ils s'attaquent aux gardiens de parc, le parc qui constitue un des moteurs ou un des leviers dans cette province du Nord Kivu.
Justement, Jeff Mapilanga, vous évoquez ce contexte de conflits avec ces bandes armées qui opèrent à partir de ces parcs. Plusieurs sources parlent des hommes armés non identifiés, mais nous avons suivi dans les reportages de notre frère Donat Madimba, le DG de l'ICCN, qui a il a plutôt précisé qu'il s'agit des éléments FDLR. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que certains assaillants ont été arrêtés ou l'attaque a été revendiquée par les FDLR?
La zone, il faut comprendre la zone. La zone, elle est un secteur d'activité intense de ces gens dont vous venez d'évoquer les noms, cette bande armée. C'est deuxième autre élément. Ce groupe armé dont vous venez de citer les noms, en fait, elle ne vit que de cela. Elle constitue, en fait, son revenu à partir de la carbonisation, mais à partir des champs, à partir des rations, à partir, etc., de kidnapping de passagers. Donc, ils sont là pour ça. Et deuxième autre élément, c'est qu'ils ont été identifiés. Une semaine, je crois, deux semaines, il y a une traque de ce groupe armé dans la région de Tongo, de tout cela. Donc, je m'imagine qu'ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Mais quand vous voyez les éléments de l'attaque, donc c'était une embuscade qui était bien montée par des professionnels et non pas par des petites bandes locales, mais vraiment des professionnels qui, avec un feu nourri et avec d'armes de guerre automatiques.
Monsieur Jeff Mapilanga,
voir qu'il s'agit vraiment de ces gens.
Voilà, vous parlez de la piste.
Deuxième autre élément.
Vous parlez de la piste.
On n'est pas à la première, c'est-à-dire ils ont été appréhendés plusieurs fois, en fait, dans cette zone ou dans les zones périphériques.
Voilà, vous parlez de cette piste FDLR, mais bon, on sait que cette attaque intervient dans un environnement de conflits entre les populations environnantes et l'ICCN. Hein? Donc vous pensez qu'on ne peut pas établir un lien entre ces conflits-là et cette attaque, hein?
Je me dis, il faut dissocier les choses. En fait, le conflit avec certains riverains provient de quoi? L'ICCN, c'est une agence d'application, j'ai dit bien, j'insiste sur ce qu'on appelle application de la loi. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Qu'est-ce qui se passe? Le parc Virunga, le premier parc en RDC, le premier parc en Afrique, ses limites sont bien connues, mais la population viole ses limites, qui sont bien connues parce que c'est le parc le plus ancien. Et l'ICCN, dans ses fonctionnalités, dans ses responsabilités, il a comme mission de protéger l'intégrité du parc. Mais il le protège non seulement pas avec différents programmes, il y a différents programmes, il y a la sensibilisation, il y a les concertations, il y a les délais qui sont donnés, etc. Mais il y a également des opérations. Lorsqu'on donne un délai plusieurs fois, il a donné des délais, et que donc les gens n'ont pas obtempéré à des délais et ils ont procédé à des évacuations forcées comme ce qui se passe par exemple dans certains sites où il y a aussi des petits sites résiduels miniers.
Jeff,
je me dis que je ne saurais pas dire oui et non
Mais je me dis que ça a un contexte, bien sûr, de cela. Et comme l'intervenant de tout à l'heure, il a parlé également de certaines personnes, certaines personnalités responsables qui utilisent le parc comme, en fait, campagne électorale pour dire non, on va subtiliser ou bien on va habiter le parc d'un secteur.
Merci, Jeff.
Votez-moi, etc. et ainsi de suite.
Merci, Jeff. Nous allons vous redonner la parole. Honorable Jean-Paul Lumbulumbu, vous allez réagir à ces commentaires qui viennent des Kananga au Kasaï Central.
C'est Évariste Kabadi à Kananga au Kasaï Central. L'embuscade tendue par des As de l'heure contre des civils au parc national de Virunga est inacceptable. De ce fait, je demanderai au président de la République de proclamer l'état de guerre conformément aux articles 86, 143 et 156 de la Constitution et donner une extension des compétences du juge militaire et en substituant l'action répressive des juridictions de la République sur cette partie du territoire national.
Honorable Jean-Paul Lumbulumbu.
Suivi le point de vue de Variste, je respecte son opinion, mais je ne suis pas tout de même d'accord avec lui que pour résoudre le problème qui se pose actuellement au niveau du parc, il faut l'état de guerre. Non, ça c'est une solution qui ne peut pas être envisageable. La solution pour le moment, je pense qu'il faut faire d'abord un diagnostic réel des différents problèmes de la population riveraine autour du parc. Je veux bien, le parc c'est un bien, c'est un patrimoine commun, il faut le protéger, et je viens d'apprendre de M. Jeff Mapilang, que je salue en passant, qui est l'ICCN, mais qui est une agence d'application, je veux bien, mais évidemment, s'il faut limiter l'ICCN à une agence d'application, il faut que l'ICCN alors applique l'article 31, 32, 33 de la loi sur la conservation de la nature qui parle de la nécessité de la réactualisation des limites du parc national de Virunga. C'est en cela que l'ICCN sera une véritable agence d'application parce que ces dispositions-là sont claires lorsqu'elles disent qu'il faut réactualiser les limites des parcs au fur et à mesure qu'il y a pression démographique. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui dans les territoires de Rutshuru, de Beni et de Lubero. Donc, à mon avis, il faut un dialogue. Il faudrait qu'au niveau national, le gouvernement central puisse prendre la question à bras le corps pour mettre sous forme d'un dialogue la population riveraine, représentée notamment par les chefs coutumiers, les notables, les députés, les associations, je ne sais pas, des pêcheurs, des cultivateurs, ensemble avec l'ICCN, pour qu'on puisse essayer d'imaginer les mécanismes par lesquels on peut réactualiser le limite. Et ça pourra être une solution efficace parce qu'en fait, la délimitation aura été participative, communautaire, et là, toute la population va s'impliquer dans la protection de ces bijoux que nous voulons tous.
Jean-Paul Lumbulumbu,
la question de l'état de guerre n'est pas à l'ordre du jour.
Et donc vous pensez que pour mieux protéger ces patrimoines nationaux qu'est le parc national de Virunga, il faut notamment, essayer d'appliquer cette disposition qui parle de la nécessité de la réactualisation des limites du parc national de Virunga.
Tout à fait. Ça, c'est une solution la plus durable pour trouver, pour pouvoir apaiser les populations. Parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable tension des populations riveraines autour du parc national de Virunga. Je ne voudrais pas ici non plus mettre un lien entre l'attaque qui a eu lieu tout récemment et le mécontentement de la population, mais je pense que cette attaque doit être une occasion pour le gouvernement central de pouvoir s'asseoir avec l'ICCN, qui est une agence d'application, comme l'a dit M. Jeff Mapilanga, pour qu'on puisse essayer de voir quels sont les problèmes autour du parc national, de manière à amener la population à se sentir à l'aise, qu'elle puisse elle-même contribuer à la protection, et que les tensions répétitives que nous observons aujourd'hui entre la population riveraine qui se trouve être victime, par exemple, c'est lorsque seulement les récoltes doivent être cueillies, que vous allez voir que
l'ICCN envoie les éco-gardes pour ravager les récoltes de la population, je pense que tout ça, ça crée des mécontentements et c'est un aspect qu'il ne faudrait pas négliger dans une solution définitive.
Alors, à votre avis,
à trouver par rapport au parc.
À votre avis, pourquoi cette disposition qui pourtant existe, pourquoi n'est-elle pas mise en application? Pourquoi est-ce que c'est parce que l'ICCN n'est pas d'accord avec cette disposition? Est-ce que c'est les populations qui ne veulent pas que la disposition soit appliquée? Les blocages, c'est à quel niveau?
Bon, je pense en réalité que les responsables de l'ICCN veulent une gestion policière comme à l'époque, dans l'époque coloniale, où les colons pouvaient dicter tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils disaient c'était du amen. Mais non, le contexte a totalement évolué. Le contexte dans lequel le parc national a été attribué et n'est pas le même contexte aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut plutôt une gestion communautaire, une gestion participative, une gestion qui permettra aux communautés riveraines de se sentir totalement impliquées dans la gestion de ces parcs. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans les parcs que nous avons, Virunga Foundation, et nous avons qui a exporté du courant. Mais les bénéficiaires du courant aujourd'hui sont tels que si Demerode n'est pas là aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui ira réclamer des parcs dans cette société-là.
Merci.
Ça sera toujours les enfants des Demerodes qui vont aller bénéficier de ce parc-là. Donc il y a un problème de l'implication de la communauté dans la gestion et même les ressources de ce parc-là qui est très important qu'il faudrait pas.
Merci honorable. On a compris. Maître Olivier Ndolé, vous allez aussi réagir à cette réflexion.
Robert Mahomet de Bouka, vous aussi de Kivu. Cette attaque ne peut surprendre aujourd'hui plus d'une personne. Il ne fallait pas s'y attendre les moins. C'est la conséquence de la négligence du gouvernement congolais par rapport à l'organisation de la vraie lutte contre les groupes armés tant locaux qu'étrangers qui opèrent depuis des années sans être inquiétés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit en RDC. Je pense que si le gouvernement congolais avait bien songé au rapatriement des FDLR au Rwanda, la RDC ne vivrait pas aujourd'hui cette scène macabre, cette attaque de mauvais goût au niveau du parc national de Virunga. Et au cas où l'on continuerait à ne pas faire attention au mouvement des FDLR à l'est de la RDC, il y a lieu que d'autres attaques pareilles puissent se perpétrer les jours à venir dans cette partie du pays.
Maître Olivier Ndolé.
Je pense que la réflexion, elle est trop fertile. Et c'est une réflexion, je crois, qui cadre beaucoup plus par rapport au contexte. Et je crois l'activisme des groupes armés dans et autour, le fait que le conflit armé n'a pas été, si vous voulez, délocalisé du parc national de Virunga, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, partout dans des tronçons qui passent par-ci, par-là, qui est, si vous voulez, ce genre d'attaque, je crois que ce qui s'est passé, c'est quelque chose, si vous voulez, à condamner. Ça dépasse même, si vous voulez, l'assentiment humain. Ça dépasse, si vous voulez, même une volonté diabolique, monsieur le journaliste.
Maître Olivier.
Je pense qu'il doit y avoir des efforts, si vous voulez, conjugués par le gouvernement national. Il y a eu la création, si vous voulez, d'un corps spécial par rapport au nettoyage des aires protégées. Je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le débat qu'il faudra donc voir comment engager, comment mettre en opérationnalité les corps spéciaux pour le nettoyage des aires protégées. Je crois que le parc national de Virunga, au regard de ce contexte beaucoup plus couplé avec la circulation illicite des armes légères et petit calibre et l'inflation des groupes armés, je crois que c'est le moment pour le gouvernement central pour appliquer la loi, parce que ce qui se passe, il y a la dimension de la guerre contre l'application de la loi, qui des fois, certains politiques sont en guerre contre l'application de la loi, mais aussi les groupes armés qui ont érigé, encore une fois,
Maître Olivier,
ils ont érigé un programme politique, la violence, et même, si vous voulez, le pillage des ressources.
Voilà. Vous avez suivi l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu qui estime que la meilleure façon de protéger ces parcs, c'est associer les populations environnantes à la gestion de ces parcs, une gestion communautaire, une gestion participative.
Je suis d'accord par rapport, si vous voulez, à la proposition du confrère Lumbulumbu par rapport à la participation, mais je ne suis pas totalement d'accord que ça pourra résoudre, par exemple, la question liée, si vous voulez, aux attaques, parce que je ne pourrais pas dire ici que les communautés, bien qu'ils ont des revendications par rapport au parc, bien qu'ils ont des lamentations par rapport à une quelconque question foncière, je doute qu'ils peuvent avoir aussi une réflexion négativement fertile.
Merci.
Pour s'attaquer physiquement ou de manière armée, si vous voulez,
aux
gardes. Moi, je pense qu'il faut chercher des solutions beaucoup plus globales.
Merci. Merci des solutions globales. Jeff Mapilanga, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Paulin Sengangabo, je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le parc de Virunga, c'est un patrimoine national congolais, dont nombreux pays combattent. Cependant, ces morts de trop prouvent la suffisance que dans les parcs, il n'y a pas une sécurité efficace. Et cela est souvent la faute du directeur de l'ICSN, qui n'arrive pas à étaler au gouvernement central tout risque qui peut arriver au parc en cas d'attaque des milices. En plus, les gardes-parcs ne sont pas bien équipés de matériel, voire bien formés, capables à faire face aux attaques de ces hors-la-loi qui endeuillent nos compatriotes.
Monsieur Jeff Mapilanga, votre réaction?
Oui, je crois que par rapport à la dernière, au dernier intervenant, hein, je disais que bon, je crois qu'il faut qu'il se renseigne par rapport à la dimension de la gestion d'une parc. Le parc ne dépend pas d'une seule composante. Je suis tout à fait d'accord par rapport aux aspects de diagnostic et de conservation communautaire, mettre toutes les parties ensemble pour faire les diagnostics, essayer un peu de continuer à dialoguer parce que c'est un processus, c'est en fait le vécu quotidien. Mais également, hein, je voudrais souligner, c'est que quand on dit que non, les gardes ne sont pas bien formés ou comment, ainsi de suite, non. La mission première des gardes, elle est une mission policière. Dans le contexte, je suis quelqu'un qui a travaillé plus d'une vingtaine d'années dans la brousse comme chef du parc. Et donc, je connais, je crois qu'il faudrait que notre collègue puisse se renseigner comment, c'est-à-dire l'ICSN, une agence policière, mais au regard des enjeux, au regard de la militarisation par rapport à tous ces malfrats, on a mis en place une unité spécialisée au sein de l'ICSN qu'on appelle corps de protection. C'est par rapport, en fait, il y a 20 ans que la donne a changé. Donc, il faut adapter cette lutte de protection de la ressource à une dimension qui est beaucoup plus au contexte presque militaire. C'est comme ça qu'on a désigné cette unité qu'on appelle corps de protection des parcs nationaux. Et que donc, il ne s'agit pas de la question de formation, mais il s'agit d'un contexte post-conflit avec un foisonnement des forces armées qui tirent non seulement pas le bénéfice par rapport au terrain qu'ils se réfugient dans les parcs, mais également ils tirent aussi des dividendes directs pour financer leurs opérations en exploitant illégalement.
Voilà, vous l'avez déjà dit. Maintenant, en guise de conclusion, monsieur.
De la dimension de formation, parce que je peux vous rassurer.
Jeff,
nous sommes parmi une institution qui forme les gardes dans les institutions aussi bien nationales que les institutions étrangères.
Merci.
En tout cas, formées dans la dimension de la lutte pour la protection des ressources naturelles dans les écoles de la région.
Merci, monsieur Jeff Mapilanga. Merci, je considère ça comme votre conclusion. Honorable Jean-Paul Mulumbu, en conclusion.
En conclusion, j'appelle le gouvernement central à organiser un dialogue avec l'ICCN et les populations riveraines de Lubero, de Rutshuru et de Beni autour de la problématique des priorités de la population. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on pourra résoudre les problèmes de mécontentement. Mais également, c'est de pouvoir renforcer la sécurité autour du parc et surtout dans le territoire autour de Rutshuru.
Merci. Merci, Maître Olivier Ndolé. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que il faudra, comme l'a dit Jean-Paul Mulumbu, que le dialogue continue par rapport à certains aspects liés, par exemple, à la gouvernance. Il faut que la gouvernance, si vous voulez, du parc soit anthropocentrique, mais aussi il faudra voir comment accélérer la question de la réforme foncière, que la question de la réforme foncière puisse tenir compte des besoins.
Merci. Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoy et à Dona Madima, Alain Ngoy qui était à la technique, et à Dona Madima qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.